Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole.
Tranche de vie, petit voyage à travers nos existences. Auditeurs de Tranche de Vie, du 18 au 26 mars va se dérouler la semaine d'action d'éducation contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Cette semaine correspond à une action qui a été voulue et amplifiée par le gouvernement depuis les événements qui se sont produits au cours des dernières années dans notre pays. Mais il ne faut pas s'imaginer que ces événements ont été les seuls à éveiller une préoccupation sur la pratique de la tolérance dans notre république démocratique. De nombreuses personnes y vivent et font l'expérience au quotidien de l'intolérance, des discriminations et quelquefois des actes racistes et antisémites violents. Aujourd'hui, dans notre studio, quatre personnes ont accepté de se réunir pour parler de la manière dont elles vivent au quotidien ces fléaux qui sont devenus intolérables. Et je les remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Je vais commencer à leur demander comment, puisque ce sont quatre personnes qui habitent le Grand Périgueux, comment, dans leur vie quotidienne, ils vivent ce qui est perçu par une partie de la population comme des différences qui ne sont pas acceptables. Je me tourne d'abord vers Georgette pour lui demander si elle peut nous dire comment, dans la vie quotidienne, elle sent que les gens, certaines personnes, ne l'acceptent pas ou ne l'acceptent pas complètement en tant que ce qu'elle est.
Alors moi, je dirais que ce serait plus envers ma religion. Donc certes, bon, après les événements qui se sont passés ces dernières années, je trouve que l'islam est perçu vraiment négativement. Et alors qu'il n'y a pas, de le percevoir comme ça, parce que pas du tout cette religion est vraiment... quand on la connaît, qu'on sait bien la pratiquer, elle est magnifique. C'est juste une religion qui encourage vers la tolérance, vers le respect, vers le respect d'autrui, enfin voilà quoi. Et je trouve que on s'allie beaucoup cette religion et du coup c'est ça qui me laisse des fois me sentir un peu différente. Mais c'est les gens qui me laissent sentir différente parce que moi personnellement je me sens pas du tout différente envers les autres personnes.
Alors vous venez de nous dire que vous étiez de confession musulmane, oui. Pratiquante, oui. Et que vous souffrez de cet amalgame qui est fait entre le fait d'être musulman et puis les événements qui se sont produits récemment et qui ressortent à un radicalisme que vous ne reconnaissez pas, que vous n'admettez pas. Est-ce que dans d'autres circonstances de la vie quotidienne, vous avez perçu justement cet amalgame ou cette défiance vis-à-vis de vous, soit en tant que musulmane, soit en tant que personne originaire. Vous êtes originaire du Maghreb ?
Oui, je viens d'Algérie. Bon, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais d'origine algérienne.
Voilà, vous avez grandi en France. Est-ce que vous avez senti quelquefois cette espèce de défiance vis-à-vis des Algériens?
Alors déjà moi j'ai un physique, je n'ai pas vraiment typé maghrébine, donc on ne le voit pas, on ne le perçoit pas directement. Donc j'ai un peu plus de chance, on va dire, par rapport à d'autres amis qui, elles, ont plus de mal dans la vie quotidienne. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment eu du racisme pur où on m'agresse directement en me disant « rentre chez toi » ou enfin voilà quoi. Ma mère, oui, par contre, parce qu'elle met le voile. Donc elle, oui, elle a déjà été agressée plusieurs fois avec des propos, enfin voilà. Mais moi, non. Après, c'est plus dans ma religion, oui, quand on va en parler, ce qui me dérange, c'est qu'on est incompris, en fait. On est vraiment incompris et c'est à cause de certains, si je puis dire, idiots, parce que c'est, ou sectes même, où je parle de Daesh, qui nous salissent, en fait, et qui montrent une image négative qui n'est pas du tout. Qui n'est pas du tout. Et tout ce qui... Enfin, tout leur, ils se justifient avec le Coran, mais tout ce qu'ils font, c'est contraire. Si je peux vous emmener un livre, vous verrez que tout ce qu'ils font est contraire à ce qu'ils font subir aux gens. Ou, pour moi, ce sont des gens qui sont perdus, ces gens-là. En général, de toute façon, c'est des gens qui sont perdus. Hein. Vous regardez, c'est des jeunes de 16 ans qui, ou 18 ans. Qui,
oui,
voilà.
Ça, c'est effectivement ce qu'on apprend tous les jours.
Ouais, et ils sont
c'est
pas vraiment. Perdus, puis ils se disent, ah, ben, ça, c'est plus une secte ou autre chose, ça n'a
oui.
rien à voir.
Sabrina, est-ce que vous, votre expérience est comparable à celle de Georgette? Est-ce que vous êtes croyante?
Oui.
Et pratiquante, est-ce que vous avez aussi vécu dans votre vie quotidienne ce sentiment d'être rejetée parce que vous êtes musulmane, ou alors fait l'expérience aussi de formes de discrimination qui tiennent à votre origine maghrébine?
Moi je rejoins un peu Georgette sur le fait que justement par rapport à l'islam, voilà, moi je me suis reconvertie à l'islam, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une religion, une belle religion. Je vois tout à fait qu'on est sali dans le sens où voilà, c'est pas du tout ce qu'on dit ou ce qu'on peut croire. Moi en fait j'ai une petite fille d'origine marocaine, donc voilà, le papa est marocain. Enfin, je sais un peu que des fois ça peut déranger dans le sens où les maghrébins sont un peu mal vus, les gens ont beaucoup de préjugés ou voilà, ne serait-ce que des clichés.
Ça vous est arrivé d'être refoulé, insulté, ou bien qu'on fasse des allusions à votre origine géographique? Vous êtes née au Maghreb?
Non, moi je suis française. Oui, moi je suis de française d'origine espagnole, mais voilà, le père de mon enfant est marocain.
D'accord. Et vous êtes convertie à la religion?
Je suis convertie à l'islam, oui.
Mais on savait que tout à l'heure on faisait allusion aux vagues de populations oui. étrangères qui sont venues en France. Il y a eu beaucoup d'espagnols aussi. Mmh. Hein, si vous allez dans le sud-ouest, oui, la région de Toulouse et plus au sud, là il y a beaucoup de gens d'origine espagnole également.
On va passer maintenant la parole à Alain, pour qu'il nous dise aussi si dans sa vie quotidienne, il a fait l'expérience de comportements discriminants en raison de son origine, en raison de son nom, en raison de sa religion, qui est la religion juive. Alain ?
Bon, avant tout, pour dire que, avant d'être de confession juive, je suis un citoyen français. Parce que c'est la chose la plus importante, le fait que je sois juif, c'est une religion, mais c'est pas une étiquette, hein. Il faut pas prendre ça comme une étiquette. Maintenant, au quotidien, oui, il y a beaucoup d'actions qui sont menées contre les juifs. Pour ça d'ailleurs, je milite pas mal pour le devoir de mémoire, parce que ce qui s'est produit avec la Shoah, on sait qu'à tout moment, ça peut ressurgir. Bon, je ne suis pas personnellement attaqué, je n'ai jamais été personnellement attaqué, parce que je me suis toujours défendu et j'ai toujours revendiqué ma judaïcité. Donc les gens veulent savoir ce que c'est d'abord, et à partir du moment où ils connaissent une religion, ils commencent à la respecter. Je pense que le gros problème qu'il y a actuellement, c'est que les gens ne connaissent pas les religions, ne le connaissent plus du tout. Et ils ne savent pas, ils s'imaginent, effectivement, ils font, dans ce qui concerne les musulmans, ils font un amalgame entre la religion et Daesh, ce qui n'est pas du tout la même chose. Maintenant, en ce qui concerne les juifs, on sait qu'il y a toujours beaucoup de problèmes. Bon, on n'a qu'à se rappeler l'affaire Mérad et puis l'école juive de Toulouse, où c'est vraiment un établissement d'enfants juifs qui était visé. Au quotidien, il y a énormément d'actes antisémites. En 2016, le nombre d'actes d'antisémitisme par rapport aux juifs, hein, je ne parle pas par rapport aux maghrébins, où là ça a augmenté, par rapport aux juifs, ça a diminué. Alors pourquoi ça a diminué? Je pense qu'il y a eu des mesures de protection aussi de l'État qui font que il y a un travail qui est fait là-dessus et ces actes diminuent. Maintenant, il faut rester toujours très très vigilant, parce qu'on sait que ça peut encore une fois ressurgir.
en dehors de ces atteintes brutales auxquelles vous faites allusion, est-ce qu'il vous est arrivé de noter des comportements qui étaient des comportements discriminatoires, soit à cause de votre nom, ou alors des allusions à votre présence, à tous les clichés qu'on véhicule sur les gens de votre confession ?
Oui, il est évident qu'il y a toujours une arrière-pensée quand on a un nom qui sonne un peu juif. Il y a toujours une arrière-pensée. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les gens de la télé qui ont dit que les juifs dominent la télé, dans le domaine bancaire, bien entendu, également aussi, alors que c'est complètement faux. Les banquiers ne sont... Il y a beaucoup moins de juifs qu'on ne le pense. Mais ces clichés-là existent toujours et sont bien ancrés. Bon, il faut en parler, il faut communiquer, il faut rassembler les différentes religions pour échanger. Il faut travailler comme ça.
Mais alors, est-ce que le fait que dans certains domaines, les talents d'une population donnée s'expriment doit être caché ? Parce que de plus en plus, on verra apparaître dans, par exemple, les médias ou dans l'industrie, comme c'est en train de se faire petit à petit, des gens aussi qui sont d'origine maghrébine, comme certaines personnes d'origine italienne ou espagnole ont aussi fait des fortunes et puis ont fait des situations grâce à leur mérite et grâce à leur talent.
Tout à fait. Je pense même qu'à l'heure actuelle, si on faisait un recensement, ce que je ne souhaite pas, parce que ça a des relents qu'il ne faut pas... Mais si on faisait des sondages, on se rendrait compte qu'il y a certainement beaucoup plus de médecins musulmans que de médecins juifs, de banquiers catholiques que de banquiers juifs. Et parmi la télévision, il y a beaucoup plus de starlettes catholiques que de starlettes juives.
Tout ça relève, illustre la force de ce qu'il faut appeler évidemment les préjugés. Charles, vous êtes... originaire de l'Afrique subsaharienne. Vous êtes établi en France depuis longtemps aussi. Comment vivez-vous cette situation au quotidien, alors que vous avez embrassé une religion qui est une religion encore, au moins théoriquement, d'une majorité de Français ?
Merci de me donner la parole. Le problème de discrimination, plus couramment de racisme, ne m'a pas vraiment beaucoup touché parce que j'ai l'avantage par rapport à d'autres que je suis arrivé en France étant déjà adulte. Et il faut aussi dire que chaque fois qu'on parle de discrimination ou de racisme, on oppose toujours l'Occident avec l'Afrique par exemple ou d'autres continents. Mais il faut dire que même au sein même des pays africains, on peut aussi parler de racisme et de discrimination. Bon, je suis arrivé en France et j'avais déjà dans mon escarcelle de l'humanitaire à faire. Et je pense que le maître mot que j'ai lancé, le leitmotiv que j'ai lancé, c'est apprendre à connaître l'autre pour mieux l'apprécier et pour mieux l'accepter. Et chaque fois dans nos animations, on a toujours mis l'accent là-dessus. Et il faut dire que la peur de cette méconnaissance de l'autre fait que on a du mal à l'accepter. Et ajouter à ça tous les problèmes socio-économiques qui se greffent à tout ça font que il y a un peu de repli sur soi et un peu d'égoïsme, parce qu'on se dit les autres ils viennent prendre tout ce que nous on a, mais on oublie que l'Europe, ou particulièrement la France, qui est le pays qui nous accueille, c'est fait aussi avec les autres. S'il n'y avait pas eu tous ces Polonais, tous ces Juifs, tous ces Africains, tous ces musulmans...
Les tirailleurs
sénégalais, il y avait un peu de tout, mais comme c'est les Sénégalais qui étaient le plus nombreux, la France... Pas seulement la France, l'Europe aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Donc, je pense qu'il y a le travail des médias à faire. Parce que si on donnait aussi beaucoup plus de la parole à tous ces migrants, il y aurait peut-être peut-être moins de discrimination. Ouais, il y aurait beaucoup plus de tolérance. Et il faut dire que ça doit commencer à la base, parce que lorsqu'on voit les petits-enfants sont plus violents que les adultes. Dès que on commence à leur mettre ça dans la tête à la maison, exactement, ils sont encore beaucoup plus violents que les adultes.
Voilà, ouais, vous avez tout à fait raison. Mais une manifestation comme cette semaine vise essentiellement le public scolaire et à développer une idée plus forte de tolérance dans les populations scolaires, bien entendu. Est-ce que vous avez rencontré des situations discriminantes ? Est-ce que vous avez eu des difficultés en raison de vos origines dans le domaine professionnel ? Je vais revenir vers Georgette.
Moi non, personnellement, pour l'instant non. Après, je n'ai pas encore exercé beaucoup de métiers. J'ai commencé à travailler assez jeune, on va dire, hein, j'ai 20 ans. J'ai travaillé donc 6 ans dans la même entreprise et je n'ai jamais eu de problème. Bon, des incompréhensions peut-être par rapport à ma religion, oui. Mais après, on a toujours communiqué, j'ai expliqué. Bon, certes, elles sont de mon avis, oui, c'est bien, elles sont pas, c'est leur choix. Mais j'explique toujours. Maintenant, en ce moment, je suis au chômage. Je commence à faire des démarches pour le travail. Donc là, peut-être que sûrement, je vais peut-être rencontrer des problèmes, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Jusqu'à présent, vous n'avez jamais rencontré de situation qui vous laissait penser que vous étiez écarté parce que un emploi, parce que encore en raison de votre nom ou de vos origines.
Pour l'instant, non, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé assez longtemps dans la même entreprise, donc pour l'instant, non.
Est-ce que vous avez dans le milieu des gens de votre connaissance et qui sont d'origine maghrébine, entendu parler de situations de discrimination à l'embauche?
Dans mon entourage, oui, c'est déjà arrivé. Il y a des personnes qui, quand elles se présentent avec un nom et un prénom arabe, on va dire, sont vite fait mis de côté,
oui,
oubliées.
Bon, ça, c'est, j'entendais encore une statistique il y a quelques jours. Il faut quand même pas se cacher que ça existe.
Ah oui,
ça existe.
Le fait aussi d'habiter à Koné Chami.
Beaucoup, hein.
C'est
Ah bon?
Oui, le fait d'habiter à Koné, mais je sais pas. Il stigmatise ce quartier, je sais pas. C'est un quartier peut-être très dangereux.
Vous faites allusion au quartier prioritaire de Chamier, oui.
Alors, qui est très mal perçu.
Très mal perçu, oui, par la population de la commune ou bien
de la commune. Bon, après, c'est leur problème, quoi. C'est que Chami leur plaise, oui ou non. Bon, chacun a son avis. Mais de l'extérieur, des gens de l'extérieur.
Ah oui.
Ils perçoivent très mal Koné Chami, oui. Comme ils auraient pu très bien aussi, ils perçoivent mal le Gour de l'Arche, par exemple.
Pourquoi? Comme étant un foyer, un quartier habité essentiellement par des gens d'origine étrangère.
Des gens de toute origine, oui. Il faut savoir que quand même, sur ce quartier-là, il y a plus de 30 nationalités.
Oui, oui. Ça,
rien que dans Koné Chami.
Et puis que cette population, elle est de plus en plus mobile.
Ma sœur en a fait les frais aussi à l'école.
C'est une forme de discrimination.
Ça, c'est une forme de discrimination, oui.
Sabrina, vous avez rencontré des situations comme ça dans votre profession?
Moi, non. Après, avec mon nom de famille, le nom de famille de mon mari, il y a eu quelques petites... j'ai compris que ça dérangeait. Après, non, pour ma part, moi, non. Enfin, j'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant.
Les Françaises, elle a un nom et prénom.
Oui, oui. Donc c'est simplement des coups d'épingle, mais des allusions, des choses comme ça, mais pas d'action directe.
Après, dans le sens où on mange, on va dire, la viande selon le rite musulman, ça oui, je sais que ça... Je me suis un peu sentie agressée dans le sens, quand je suis rentrée dans le magasin et j'ai demandé viande là, oui, j'ai compris que ça dérangeait par contre.
Ah,
là,
d'accord.
Oui. Là, oui.
D'accord.
Là, j'ai vu. Après,
mais ça ne s'est pas traduit par une réflexion particulière ou une agression verbale?
Enfin, le visage, j'ai très bien compris que, c'était. On m'a regardé. Waouh!
À l'école, comment ça se manifeste?
Quand on leur dit qu'ils ne mangent pas de viande, ça les choque un petit peu. Mais oui, mais il va manger quoi? Il lance quelques réflexions, mais bon, mais il va rien manger. Mais ils sont dans l'incompréhension totale.
Alors, ça, je dois dire que ni l'une ni l'autre, vous ne portez le voile. Vous avez fait un choix délibéré. Est-ce que les questions d'interdit alimentaire ou de prescription alimentaire, est-ce que ça vous paraît devoir continuer? Est-ce que ça vous paraît devoir alimenter des polémiques? Ou bien est-ce que c'est quelque chose dont vous pensez que finalement, bon, ça disparaîtra et puis...
Moi, je suis dans l'optique... Enfin, je suis musulmane, je respecte ma religion, je l'exécute, mais après, les autres personnes, ce qu'elles pensent, franchement, sincèrement, ça me touche pas. Après, en faire polémique, enfin, non, je préfère vivre tranquillement mon petit chemin et pas embêter le monde tant que ça ne me touche pas personnellement et que ça ne soit pas violent. Les paroles des...
Je vais aller plus loin, vous poser une question encore plus directe. Est-ce que vous accepteriez, ou est-ce que vous acceptez, d'être soigné par un homme?
Ah oui, un médecin. Bah, mon médecin, c'est un homme. Oui,
moi aussi. Après,
parce que vous savez que là aussi, il y a différents degrés d'acceptation. Ouais. Mais tout ça, il faut aussi le placer dans une perspective du long terme, hein, une perspective historique. Charles est là, qui appartient à la religion catholique. Bon, il sait très bien qu'il y avait des interdits alimentaires qui étaient respectés par les catholiques, mais qui étaient stricts, hein, sur le jeûne, sur le vendredi saint, sur le
jour. Actuellement, on est en plein carême, et le carême ne se fait plus vraiment... Voilà. Moi, par exemple, je le fais parce que je suis resté un peu traditionnaliste, donc j'ai fait mes 40 jours de carême, sauf les dimanches.
Quelle est la proportion de catholiques, même aujourd'hui, qui respectent les prescriptions du carême?
Aujourd'hui, plus en Afrique, en Amérique latine qu'en France. En France, même les prêtres ne font plus le carême, à part le vendredi saint, je crois. Où ils jeûnent vraiment. Nous, on continue à faire le jeûne, l'abstinence. La règle des 3 P du carême, c'est-à-dire prière, partage et pénitence, on le fait encore pendant les 40 jours. Mais en France, c'est vraiment... Je crois que les doigts d'une main suffiraient pour compter le nombre de personnes qui pratiquent encore. Et puis tout ça, c'est dans la foi, il faut relativiser parce que... Parfois, on ramène Dieu à la dimension de l'homme. Alors, c'est pas ce qu'il faut faire. Dieu a créé l'homme libre et heureux. C'est nous-mêmes qui avons choisi de vivre en marge de l'amour de Dieu. Donc, Dieu, si on dit qu'il est miséricordieux, il comprend aussi nos frasques et nos errements. Donc, il ne faut jamais condamner l'autre parce qu'il ne fait pas comme moi je fais.
On va non plus se reposer sur la bénévolence de Dieu, trop fort, hein, quand même.
Mais non, je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, mais il y a quand même des limites. On reste humain et Dieu, il est Dieu, et nous, on reste ses créatures tout en voulant vivre dans son amour, dans sa miséricorde.
Alain, de votre côté, dans votre travail, dans les interdits que vous êtes amené à respecter en fonction de votre religion, est-ce que vous avez rencontré des obstacles aussi qui vous ont paru tout à fait injustifiés?
Non, à proprement dit, personnellement, j'ai jamais ressenti d'obstacle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parce que je revendique ma religion et je l'affiche. Donc les gens, sachant que je l'affiche, ils se méfient un peu de ce qu'ils disent. Mais je voudrais revenir, moi, sur un autre sujet qui est la discrimination aussi positive, qui, c'est un peu la mode en ce moment et qu'elle est quand même un peu dangereuse. Je dis que c'est un peu dangereux parce que faire une discrimination positive, il y a bien le mot discrimination dedans et ça persiste quand même. Donc on arrive à des problèmes tels que l'ont décrit Georgette et Sabrina, où là on a vraiment des problèmes qui sont la discrimination due au nom ou au faciès ou à d'autres choses, et ça c'est assez grave. Alors maintenant il y a aussi la discrimination sur, on parle des musulmans actuellement, mais il faut parler aussi de la discrimination sur les gens de couleur, et ça c'est assez marqué aussi. On n'est pas peut-être en Dordogne avec une population, il n'y a pas énormément de population africaine, mais quand on va sur des régions comme Bordeaux ou Paris, elle est Paris, Lyon, elle est quand même très très forte. C'est assez dommageable parce que c'est vrai que la plupart des Africains qui sont en France sont de toute façon des gens qui ont été colonisés, donc sont considérés comme des Français.
Mais là aussi, malheureusement, ce à quoi vous faites allusion, ça risque d'être très durable. Je veux dire, si on ne lutte pas délibérément contre ça, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, ce qui vous donne une idée de ce qui peut se passer sur la longue durée dans notre pays.
Tout à fait, hein, je le dis, je le répète à mes enfants, à mes petits-enfants, la bête n'est pas morte. Hein, donc elle peut ressurgir à chaque moment sous différentes formes. C'est vrai, c'est pas uniquement sous la forme qu'a connue la Shoah, mais sous différentes formes, comme effectivement c'est aux États-Unis actuellement. On a un racisme aux États-Unis contre les Mexicains, Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le travail des autres ? Non, ils n'ont pas pris le travail des autres. Ils ont fait ce que les autres ne voulaient pas faire, hein, comme ça a été le cas pour les vagues d'immigration en France, italienne, espagnole, maghrébine, polonaise. On a fait venir, j'ai vécu 25 ans dans le nord de la France. Toutes ces vagues d'immigration, c'était pour nourrir les propriétaires des mines, hein, parce que les Français ne voulaient plus descendre au fond du puits.
Je regardais ces jours-ci un journal satirique qui a défrayé la chronique il y a 2 ans, puisque une grande partie de son équipe de direction a été massacrée dans les circonstances que vous savez. Et les numéros que je regardais dataient de la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire du début des années 70. Et à cette époque, ce journal qui défendait les immigrés présentait effectivement des ouvriers d'origine maghrébine comme de la main-d'œuvre à bon marché qui était appelée à faire tous les travaux les plus sales, les plus durs, les plus répugnants. Et les plus difficiles, dont les Français ne voulaient plus. 40 ans. Merci beaucoup.
Moi, j'allais ajouter que, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de discrimination dans le milieu de l'emploi. Bon, moi, je l'ai vécu, mais d'une autre façon, parce que, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'arriver en France étant déjà adulte. Et lorsque j'ai terminé mes études à Strasbourg, mon premier poste, c'était un poste de cadre à Nancy, où j'ai eu maille à partir avec mon responsable régional, tout simplement parce que, bon, je sortais d'une grande école, et lui, comme on dit souvent, il était sac à dos. Il sentait sa place menacée parce que, bon, je suis venu comme son adjoint, et il se disait que certainement, quelque temps après, il va partir.
Son ressentiment était augmenté du fait de votre origine.
Voilà, et ensuite, donc, moi, j'ai préféré... Quand on est jeune, on a beaucoup d'ambition, donc on ne se laisse pas embobiner par... Bon, 6 mois après, je suis parti de là parce que c'était devenu insupportable, mettait des pots de bananes partout. Donc, je suis parti. À Metz, pareil, je suis arrivé. Ça a bien commencé tant que j'étais encore adjoint. Quelques temps après, ça a commencé à... Le responsable que j'ai trouvé en place n'a pas accepté que je sois là. Bon, là, j'ai quand même tenu tête, parce que je suis resté 3 ans quand même. Mais lui, il est parti 1 an après. Mais il ne le faisait pas ouvertement, mais c'était dans les rapports. C'était toujours parfois trop paternaliste, parfois ceci, que ça n'était pas bien pour l'entreprise. Bref.
À l'arrière-plan du conflit, voilà. Il y avait quand même une situation de discrimination à cause de votre origine.
C'était pas un problème de compétence, mais c'était plus un problème de... discrimination raciale.
Vous avez fait allusion tout à l'heure, Charles, au fait que même à l'intérieur, et à l'intérieur de tous les pays, il peut y avoir, oui. Tous les ensembles géographiques, il peut y avoir des situations d'intolérance.
Bien sûr.
Comme on l'a pu le voir en Afrique subsaharienne, au cours des décennies passées, où des populations entières de gens qui avaient émigré pour travailler dans un pays, étaient expulsés du jour au lendemain en raison de leur origine.
Mais ça se fait encore actuellement en Afrique. Vous voyez ce qui vient de se passer en Afrique du Sud, entre les Africains du Sud et les Nigérians. Et, bon, tout le monde sait que... Bon, c'est vrai qu'en Afrique, si on reprend l'histoire de l'Afrique, il n'y a pas d'État-nation en Afrique. L'Afrique, elle a été balkanisée par la colonisation. Donc, si on avait laissé l'Afrique dans ses royaumes précoloniaux, on n'aurait peut-être pas ce type de problème parce que la culture africaine, c'est la solidarité familiale, c'est la solidarité ethnique. Mais lorsqu'on prend déjà 3, 4, 5 ethnies qu'on subdivise et qu'on en fait un État, ce n'est plus un État-nation parce qu'il n'y a plus le même ressentiment, il n'y a plus la même valeur culturelle, il n'y a plus la même défense de la culture, sachant que la culture, c'est la base d'un peuple. Voilà, donc c'est un peu ça aussi qu'il faut fustiger. Bon, si, mais on ne peut pas revenir, on ne peut pas refaire l'histoire.
Non, mais là,
là bon, on rentre dans un autre domaine. Mais c'est pour abonder dans le sens que même dans, les, dans un même pays, il peut avoir la discrimination.
Alors, il y a, ces, il y a ces situations nationales ou régionales. Et puis, il y a des situations historiques sur lesquelles on ne peut pas revenir. Ouais. Donc, tout ça nous ramène à la tolérance, tout ça nous ramène à la force des préjugés, à la nécessité de lutter contre eux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner à l'occasion de cette semaine d'action. En tout cas, comme le disait Einstein, qui s'y connaissait quand même pas mal en matière d'atomes et en matière de préjugés, il est plus facile de casser un atome qu'un préjugé. Merci beaucoup. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.